L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission L'AJT du local, la quotidienne de l'autre radio. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 avril, évidemment, donc ce ne sont plus les vacances, les petits ont repris l'école, mais pas encore les collégiens, donc courage encore pour les cours à distance, aussi pour les lycéens, aussi pour les étudiants. Aujourd'hui, on va parler justement d'un poste d'une infirmière scolaire au lycée Réaumur de Laval qui serait menacée, en tout cas. La décision sera prise demain jeudi. On parlera justement avec une infirmière scolaire pourquoi c'est un problème. Et puis on va aussi évoquer un défi énergie-mobilité positive, défi mobilité positive proposé dans le nord du département pour justement réfléchir un petit peu à tous nos déplacements du quotidien pour éviter de prendre sa voiture tout le temps et prendre sa voiture seule. On en parle justement dans l'interview et puis retrouver en fin d'émission la chronique de Jean-Michel Gunaudeau du FC Que Choisir. On va parler aujourd'hui, cette circonstance, puisqu'il fait encore assez beau, de jardinage. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Le nombre de personnes hospitalisées pour la Covid-19 augmente en Mayenne, avec 53 personnes hospitalisées, dont 10 en réanimation. Concernant la circulation du virus, les indicateurs baissent légèrement. Le taux d'incidence est de 243,6 cas pour 100 000 habitants dans le département. 9,9% des tests sont positifs. 12 000 autotests pour la Covid-19 justement arrivés en Mayenne. Ils sont destinés aux professeurs des écoles et personnels d'éducation qui les auront d'ici la fin de semaine, avec 2 autotests par semaine pour chaque personne. Les personnels d'éducation en collège et lycée et les lycéens seront livrés un peu plus tard. Vous l'avez peut-être aperçu, ce matin si vous circuliez près de Laval sur la rocade. Elle était bloquée à cause d'un accident de camion. Un poids lourd transportant du sable s'est couché ce matin vers 7h30 au niveau du rond-point des Bozets, secteur Falluaire à Laval, dans le sens Château-Gontier-Mayenne. La conductrice du poids lourd a été légèrement blessée, elle a été transportée à l'hôpital de Laval. La circulation a été bloquée le temps de dégager la voie et une déviation a été mise en place. Vincent Saulnier, à nouveau candidat pour les élections départementales. Le conseiller départemental sortant vient d'officialiser sa candidature avec Aurélie Maillet pour le canton de Château-Gontier-Cran. Aurélie Maillet qui est adjointe au maire de Cran en charge des affaires sociales. Vincent Saulnier, lui, est le maire délégué de Château-Gontier-Bazouges. Tous les deux sont candidats de la majorité départementale Centre Droit et Indépendant. Eux aussi ont officialisé leur candidature au départemental en ce mois de juin prochain. Les binômes de gauche pour les 3 cantons de Laval. Ils sont aussi conseillers municipaux et adjoints à la mairie de Laval. Antoine Caplan et Nadège Davoust pour le canton de Laval 1. Marie-Laure Lemay-Clavreul et Antoine Leroyer, ils sont candidats pour Laval 2. Et Bruno Berthier et Camille Pétron, candidats pour le canton de Laval 3. Tous espèrent changer la majorité au conseil départemental de la Mayenne qui n'a jamais été à gauche. Moins 2,2%, c'est la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, au premier trimestre 2021 en Mayenne par rapport au trimestre précédent. Même tendance qu'au niveau régional et au niveau national. En revanche, sur une année, le nombre de chômeurs a augmenté de 1,4% dans le département, une hausse plus faible que dans les autres départements de la région. À Laval, le salon des vins et produits du terroir, lui aussi, reporté. Organisé par le club Kiwanis de Laval, l'événement devait se tenir du 7 au 9 mai prochain. Il aura finalement lieu du 7 au 9 novembre à la salle polyvalente. Ce salon permet de récolter des fonds pour venir en aide aux enfants défavorisés et handicapés du département. Il pourra peut-être vous aider à payer votre facture d'électricité. Près de 24 000 foyers mayennais vont recevoir d'ici la fin du mois un chèque énergie distribué par l'État. Objectif, les aider à payer leur facture d'énergie ou des travaux de rénovation énergétique grâce à une somme moyenne de 131,22 euros. Le chèque est utilisable jusqu'au 31 mars 2022 et en Mayenne, cette aide représente environ 4 millions d'euros. Je vous en parlais il y a quelques minutes, le lycée Réaumur de Laval craint de perdre l'une de ses infirmières. Pour l'heure, elles sont trois à s'occuper des 1800 élèves de la cité scolaire Buron-Réaumur à Laval, mais elles pourraient n'être que deux à la prochaine rentrée. La faute à un redéploiement de ce poste ailleurs dans la région, comme l'explique Nelly Fréard. Elle est infirmière scolaire au collège de Martonne à Laval et secrétaire départementale du SNICS-FSU, le syndicat majoritaire des infirmières de l'éducation nationale.
Sur l'Académie de Nantes, depuis quelques années, il y a des ouvertures d'établissements. Hein. Il y a eu notamment trois ouvertures d'établissements sur le département 44, sans création de postes d'infirmières, puisque depuis plusieurs années, il n'y a plus de création de postes d'infirmières d'éducation nationale sur le plan national. Donc l'Académie se retrouve en déficit d'infirmières, en fait, et il a été décidé, en fait, de prendre un poste en Mayenne, qui semble être surdoté, au profit, en fait, du département de Loire-Atlantique pour pallier à ce manque de postes infirmières dans les établissements ouverts. Les retentissements, c'est tout simplement déjà un établissement scolaire où il y a beaucoup de besoins en matière de santé pour les élèves, des collègues qui ont déjà une charge de travail très conséquente dans cet établissement scolaire. Et donc, ça veut dire pour ces collègues qui restent à deux sur cette cité scolaire avec une charge de travail encore plus conséquente. Et puis surtout, la difficulté pour les collègues infirmières de prendre le temps de répondre aux besoins des élèves, quoi. En plus, dans cette situation de crise sanitaire où on voit bien que les élèves peuvent, les moins bien présentent plus de situations de mal-être, présentent plus de situations d'angoisse, des situations aussi où les périodes de confinement ont favorisé des dégradations de situation familiale. Donc on a une charge de travail qui est déjà augmentée par cette crise sanitaire. De plus, on nous sollicite fortement pour mener toutes les campagnes de dépistage, dépistage antigénique, dépistage salivaire. Donc vous voyez, on a une charge de travail qui est considérablement augmentée avec cette crise sanitaire et c'est dans ce contexte en plus qu'on supprime un poste. Il faut aussi savoir que la Mayenne, donc on le sait très bien, est un désert médical. Je crois qu'il y a presque 20% des Mayennais qui ont des difficultés à trouver soit un médecin généraliste, soit un kiné, soit un dentiste. Et donc c'est la même chose en fait pour les élèves. Ça veut dire que l'infirmière dans les établissements scolaires est un professionnel de santé de premier recours et que le jeune ou l'enfant peut déjà avoir recours à ce professionnel de santé. Quelque part, on pallie au désert médical qu'est la Mayenne, quoi.
Le département compte actuellement 33 infirmières scolaires et on saura si un poste est supprimé demain jeudi lors du comité technique spécial départemental de l'éducation nationale. Je vous le proposais, ou on va vous le proposer en tout cas dans quelques minutes, de changer un petit peu nos modes de déplacement et d'éviter de prendre trop souvent sa voiture seule. C'est justement l'objectif du défi énergie positive proposé au nord de la Mayenne. On en parle d'ici quelques minutes, juste le temps d'écouter God Walked Down de The Allergies.
You know.
Walked Down de The Allergies sur l'autre radio et dans l'agité du local. Et puis une question maintenant, et si on arrêtait de faire beaucoup de nos trajets en voiture seul? C'est l'objectif fixé par le GAL Haute-Mayenne et Synergie 53 lors de cette deuxième édition du défi mobilité positive pour inciter justement à utiliser d'autres moyens de transport plus respectueux de l'environnement, que ce soit le vélo ou bien forcément la marche à pied, les transports en commun, voire même le covoiturage. Mais pour autant, sans chambouler son quotidien, c'est en tout cas l'objectif, comme l'expliquent les organisatrices.
Moi, je suis Séverine Letilleux, je suis chargée de développement pour le GAL, groupe d'action locale Haute-Mayenne, qui regroupe les 4 communautés de communes du Nord-Mayenne. Et on conduit donc à cette échelle des projets de développement local, dont des projets sur la mobilité, qui est le sujet du jour.
Et donc moi, c'est Maude Laurent, je suis animatrice à l'association Synergie, donc c'est une association départementale qui travaille sur les questions d'énergie, développement durable. Et donc on a été missionnée par le GAL Haute-Mayenne pour animer le défi mobilité positive.
C'est un défi donc qui a lieu pour la deuxième édition, c'est ça?
Effectivement, oui, on a conduit une première édition en 2019, plus précisément à l'automne 2019. Au cours de laquelle on a pu mobiliser 3-4 équipes sur le territoire de Haute-Mayenne. C'était une première expérience, donc on a testé à la fois nos méthodes d'animation et puis on a eu des premiers retours sur toutes les expérimentations qui ont été faites pendant cette édition. Et notre souhait, c'était de reconduire une deuxième édition, mais sur une saison différente. C'est-à-dire que là, on était en automne et on voulait tester une saison printanière, donc ce qui aurait dû avoir lieu en 2020, mais qui n'a pas pu se faire. Donc, on retente l'expérience cette année, en 2021, avec l'objectif du coup de profiter aussi d'une météo plus favorable, qui va permettre notamment de développer peut-être un peu plus tout ce qui est mobilité douce. Aller à vélo, à pied, dans ses déplacements quotidiens, c'est plus facile quand on a une météo clémente que quand il pleut un peu trop souvent.
Puisque l'objectif, effectivement, de ce défi mobilité positive, c'est d'éviter à tout prix d'utiliser sa voiture pour des petits trajets ou quand on est tout seul, c'est ça vraiment le cœur du sujet, on va dire?
Alors l'objectif, c'est d'éviter au maximum d'utiliser sa voiture tout seul. C'est-à-dire, on essaye de réduire au maximum la part d'autosolisme, parce que par contre, si on prend sa voiture mais qu'on emmène 3 ou 4 personnes, là, ça fonctionne. On est dans des modes de déplacement durable, c'est-à-dire qu'on évite à chacun individuellement de prendre sa voiture si on covoiture, donc c'est bien. On essaye de trouver, d'expérimenter toutes les alternatives à l'autosolisme. Alors ça va être effectivement des modes de déplacement doux, la marche, le vélo, la trottinette, Et puis, d'optimiser aussi l'utilisation des transports en commun, qui sont parfois trop peu connus, on ne s'en saisit pas de manière optimale. Et puis donc, de développer aussi le covoiturage, notamment sur des trajets comme le domicile-travail. Il y a plein de choses à développer en termes de covoiturage, mais ça peut aussi fonctionner pour les activités de loisirs, pour aller à l'école, voilà.
Et alors, très concrètement, après ce défi, comment on peut y participer? Comment c'est organisé?
Alors, ce défi, il est gratuit. Il est ouvert à tous les habitants de la Haute-Mayenne, donc la communauté de communes de Blernay, du Bocage mayennais, Mayenne Communauté, la communauté de communes du Mont des Avaloirs. Il suffit juste d'être habitant de ce territoire pour vouloir participer. Et puis, l'idée ensuite, c'est de constituer une équipe autour de soi. Donc, on dit une équipe, ça correspond à 5 à 10 foyers autour de soi. Et un foyer, on peut être soit seul, on peut être à deux, on peut être avec des enfants. On recherche 8 équipes sur la Haute-Mayenne. Et donc, le défi commence du 15 mai au 15 juillet. Il va se passer en 2 phases. La première, on va observer ces déplacements, regarder comment on fait au quotidien, à quel moment je prends ma voiture. Et puis la deuxième partie du défi, donc de début juin jusqu'à mi-juillet, on passe à l'action, on va tester, trouver la solution ou les solutions les plus adaptées à sa façon de vivre. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde au vélo, c'est pas de mettre tout le monde à la marche, mais de trouver sa solution adaptée à son quotidien, d'inscrire ces gestes-là sur 6 semaines, que ça devienne vraiment une habitude et un geste du quotidien auquel on réfléchit plus. Pour s'inscrire, on peut m'envoyer un mail, c'est bonjour@synergie53.fr. Sinon, il y a notre site internet et voilà. Et après, voilà, on peut trouver des capitaines, des ambassadeurs, des responsables d'équipe qui pourront représenter les équipes et échanger ensemble.
L'idée d'être en équipe, justement, c'est aussi de se motiver et de, j'imagine, partager aussi les bons conseils, les bons plans qu'on pourrait avoir, surtout sur un même territoire.
Exactement. L'idée, c'est de se challenger entre équipes, se motiver, partager les trucs et astuces, s'encourager, rassurer aussi. Des fois, il y a des personnes, par exemple, sur le covoiturage ou le vélo, on peut avoir des a priori. Et donc, du coup, d'avoir d'autres personnes, soit dans son équipe, soit dans les équipes concurrentes, ça peut permettre d'avoir des encouragements, de se réassurer. On a fixé un objectif normalement facile à atteindre, qui est 10% de ces déplacements seuls à faire d'une autre manière. Et puis, l'idée aussi, ce n'est pas de tout changer radicalement ses habitudes, mais commencer par une fois par semaine, deux fois par semaine. Et puis, si on arrive à aller plus loin, c'est formidable, mais il n'y a pas d'obligation à réussir à tout prix, en tout cas de tout changer radicalement.
Je me dis, c'est beaucoup plus facile à faire en ville, par exemple, où il y a déjà beaucoup de transports en commun, peut-être plus de pistes cyclables sécurisées, ce genre de choses, que dans des territoires un peu plus ruraux, où là, sauf sur des vraiment tout petits déplacements, ou alors vraiment trouver du covoiturage avec ses voisins, on peut se dire que c'est plus difficile de trouver des solutions.
En tout cas, sur ce qu'on retire de la première édition, effectivement, sur une ville comme Mayenne, il y avait peut-être plus un panel de possibles plus ouverts, et notamment tout ce qui, beaucoup de choses qui ont été expérimentées autour de la pratique cyclable, même si il manque encore beaucoup d'aménagements pour que ce soit vraiment favorable, hein, mais en tout cas il y a eu pas mal de choses qui ont été testées sur le vélo. En milieu plus rural ou dans les petites communes, c'est vrai que là on va axer plutôt sur le covoiturage. Donc, des groupes d'habitants dans la commune ou entre collègues, entre parents d'élèves. Et puis, il y avait des choses qui avaient été testées aussi sur les transports en commun pour essayer de voir comment on peut les utiliser au mieux en famille. Il y avait eu des choses qui font un peu avancer les réflexions et qui permettent de faire évoluer aussi les modes de transport pour que ça corresponde au mieux aux besoins. Mais c'est vrai que en milieu très rural, on n'a pas tout à fait les mêmes solutions qui s'offrent qu'en milieu urbain, mais justement à nous d'inventer celles qui correspondent le mieux à notre territoire, quoi. sur le vélo. C'est pas toujours si simple que ça. Il suffit pas juste d'avoir un vélo pour se mettre à faire du vélo. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont une grosse appréhension à se retrouver dans la circulation. Il y a des vraies peurs, hein, en fait. Donc, il faut lever ces appréhensions-là. Il y a vraiment une remise en selle pour certains qui est nécessaire. Il faut se rassurer. Et puis, il y a quand même besoin d'un petit équipement pour justement circuler en sécurité, être visible. Enfin, voilà. Donc déjà, sur la pratique du vélo, il y a des choses quand même à réfléchir. Et puis, sur d'autres pratiques, il y avait eu notamment un groupe à l'échelle d'une commune qui s'était constitué pour le covoiturage. Donc, avec des outils qu'on utilise au quotidien, type WhatsApp. Enfin, voilà, il y a des choses. Donc ça fait partie peut-être des expériences qui s'étaient mises en place, qu'il faudrait qu'on vérifie si elles fonctionnent encore vraiment toujours.
Du coup, c'est aussi l'objet du défi, c'est de partager différents temps. On aura un temps de lancement, on va pouvoir déjà expliquer et proposer des premières pistes. Et puis, au milieu du parcours, on va avoir sur chaque communauté de communes une animation pour pouvoir rassurer, en tout cas proposer des solutions, faire mieux comprendre les questions liées au vélo, au covoiturage, à l'éco-conduite. Et puis aussi, l'idée du défi, c'est que c'est une opportunité pour discuter aussi avec les élus locaux sur des fois des solutions, des pistes de dialogue. En fait, les usagers, les habitants sont de très bons diagnostiqueurs du quotidien. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir aussi créer ce temps pour identifier là où il y a des pistes d'amélioration à apporter. Et puis, quand il y a des projets, c'est comment on peut les améliorer pour qu'ils correspondent vraiment aux attentes des usagers, que ce soit pour la marche, le vélo, etc.
Comme vous le disiez tout à l'heure aussi, j'ai l'impression que l'idée, c'est pas de s'attaquer à une trop grosse montagne, on va dire, au début, mais vraiment de voir ce que nous, on peut faire dans notre quotidien et après, petit à petit, d'avancer.
C'est exactement ça, c'est une démarche du petit pas. C'est l'idée d'y aller petit à petit, pas gravir une montagne, une immense marche qui peut effrayer, mais justement d'essayer un tout petit peu, doucement, tranquillement, sereinement. Et puis on se rend compte aussi dans le fait d'y aller petit à petit, c'est aussi des habitudes qui rentrent dans le quotidien, qui deviennent des évidences. Et donc, du coup, on veut que ces gestes, ces réflexions sur la mobilité durable deviennent des évidences dans le quotidien de ces foyers. Ce qu'on espère aussi, qu'ils réduisent la part d'autosolisme, mais c'est aussi de se dire, quand j'ai à me déplacer, c'est de se poser la question, c'est est-ce que je peux le faire autrement? Est-ce que je peux le faire un autre moment? Est-ce que je peux différer pour optimiser des déplacements? Est-ce que je peux plutôt prendre mon vélo ou y aller à pied ou y aller en trottinette? Si on a ces questionnements-là au quotidien, je pense qu'on aura gagné aussi le défi sur le territoire.
Et l'idée, c'est de s'adresser à des gens qui sont déjà un petit peu sensibilisés ou pas forcément?
Il n'y a pas besoin d'être expert en mobilité, il n'y a pas besoin d'être archi convaincu. Il faut juste avoir envie de tester, c'est l'occasion de rencontrer des gens, c'est une façon d'agir pour le climat. Il y a des personnes qui peuvent se dire ça me coûte vraiment, le coût du carburant là, est vraiment trop élevé pour moi, j'ai besoin de réduire cette part-là, par cette approche financière. D'autres personnes qui vont dire moi j'ai vraiment besoin de me remettre au sport. Très bien, on trouve des alternatives. Je veux rencontrer d'autres habitants, je me mets au covoiturage, je prends les transports en commun.
Vous l'avez compris, chacun a donc une bonne raison de s'engager dans ce défi mobilité positive. On s'excuse d'avance, je m'excuse en tout cas d'avance pour cette qualité d'enregistrement qui n'était pas forcément au rendez-vous. J'espère que vous avez bien tendu l'oreille. Vous pouvez donc vous inscrire jusqu'au 10 mai par mail à bonjour@synergie53.fr, synergie avec un S. Justement, sur le site de Synergie Mayenne, vous pourrez trouver toutes les informations par rapport à ce défi. Les inscriptions sont donc jusqu'au 10 mai et le défi commence le 15 mai jusqu'au 15 juillet. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'une petite pause musicale assurée par Mike Higby avec Wandering Streets.
I walk the floors at night and try to know if we can work it out. I still don't know.
Wandering Streets de Mike Higby dans l'agité du local. Ce mercredi, c'est au tour du FC Que Choisir pour la chronique et on profite de ce beau temps de ce mois d'avril pour parler jardinage avec Jean-Michel Guinaudot.
Auditeurs, consommateurs, bonjour. L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe. Les jours rallongent et si l'on a eu de belles journées ensoleillées et chaudes, la froidure n'est jamais loin. Maintenant, c'est sûr, l'été arrive. Avec le confinement, vous vous êtes davantage intéressé aux petits ou grands bouts de jardin qui entourent votre maison. Et c'est le moment de penser au potager. Les beaux jours de ce début d'année ont été propices au travail du sol. Pas trop, pour ne pas perturber les bestioles qui participent au bon équilibre écologique, mais un peu quand même pour assouplir le sol et permettre aux racines de se développer. Vous y avez incorporé du terreau ou du compost maison, et un engrais naturel, bien sûr, comme le fumier en granulé. Et ça y est, c'est prêt. Si vous vous êtes précipité en mars dans votre jardin pour y faire les premiers semis, il y a de fortes chances que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Sauf si vous êtes équipé de chair chauffée. La terre encore froide, les températures en dessous de zéro le matin auront eu raison de la germination et le travail va être à refaire. De même, si vous avez mis en pleine terre ces plants très développés, forcés, en serre, et dont certains ont déjà fleuri, que l'on retrouve à profusion dans les jardineries, ce ne sera pas un bon résultat. Et s'ils ne sont pas plantés, attendez encore quelques temps en les gardant à l'abri. Il existe de très nombreuses revues et ouvrages pour vous conseiller, vous aider dans votre choix et vos méthodes. Il y a même aujourd'hui des applications sur smartphone pour gérer son bout de terrain, car il ne faut pas mettre n'importe quoi ensemble, ni successivement. Et là, l'expérience des anciens nous apprend à penser les rotations du jardin sur plusieurs années, si l'on veut obtenir de beaux légumes. Après des années pendant lesquelles le moindre puceron était éradiqué avec un produit chimique, et les allées traitées au désherbant total, l'heure est à nouveau à l'huile de coude, à la surveillance, à l'utilisation raisonnée des prédateurs, comme les larves de coccinelles. Ça marche. De grandes sociétés produisent des centaines de tonnes de tomates bio protégées de cette façon, créant ainsi d'ailleurs une nouvelle industrie, celle de l'élevage d'insectes. Pour l'herbe des allées et des planches du potager, pensez à étaler les tontes de gazon, préalablement séchées, une ou deux jours, afin d'éviter le pourrissement. Et en fin de saison, elles seront incorporées au sol et se transformeront en humus. Donc, plus de pesticides, plus de désherbants. Et si vous en avez encore dans vos placards, sachez que non seulement l'utilisation, mais aussi la détention de ces produits est interdite par la loi. Surtout, ne vous en débarrassez pas en les jetant dans la nature. Leur pouvoir polluant est immense. Rapportez-les à la déchetterie de votre ville qui dispose de bacs spéciaux et seront traités par des entreprises spécialisées. Il faudra être patient. Ce n'est que 2 à 3 mois après les semis ou plantations que l'on peut récolter les fruits de son travail. Excepté, bien sûr, pour les fameux radis de 18 jours que l'on obtient dans ce délai que si l'on a bien protégé le semis. Alors, bonne dégustation de vos légumes. Et n'oubliez pas, l'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous. Bonne semaine.
Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment, Jean-Michel, d'ici 15 jours, évidemment, dans une nouvelle chronique. En attendant, vous pouvez réécouter celle-ci à propos du jardinage et ses bons conseils sur l'autreradio.fr. C'est l'heure de notre rubrique initiative et nous sommes mercredi. Mercredi, 2 idées de sortie avec vos enfants. Je vous propose d'abord, si vous êtes à Laval, vous l'avez forcément vu, cette exposition Outdoors qui est donc installée sur le parvis du théâtre de Laval avec ces grandes affiches un peu pop avec, on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission justement, de l'artiste Red Ape. Et donc si vous n'êtes pas allé la voir un peu plus en détail de plus près, n'hésitez pas à y aller, sachant que le théâtre de Laval a mis à disposition un petit livret de médiation pour les petits mais aussi pour les plus grands que vous pouvez télécharger sur le site web du théâtre de Laval. Alors il ne faut pas hésiter à l'imprimer et puis à vous munir d'un crayon et sur place à donc vous laisser guider par ce petit livret, évidemment. À défaut de médiation en tout cas avec les artistes, ce petit livret ça peut être une manière sympa de redécouvrir l'exposition. Et puis autre activité qu'on peut vous proposer cet après-midi, à Mayenne, vous sentez peut-être déjà l'odeur de chichi et puis là, vous entendez la musique du manège, puisque oui, une mini-fête foraine s'est installée sur la place Juel depuis quelques jours. Elles seront présentes jusqu'au 24 mai, vous pourrez y retrouver donc, et vous pouvez déjà y retrouver un manège avec donc un stand de chichi et puis aussi une pêche au canard. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est possible malgré les conditions sanitaires si vous n'habitez pas trop loin. En tout cas, c'est fait un peu l'esprit fête foraine que vous pouvez retrouver cet après-midi et ce week-end à Mayenne. C'est la fin de notre émission L'AGT du local. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Novorama, suivi à 21h de Torrance Jazz Hour. Nous, on se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est l'AGT du local.